Tout d'abord, c'est la situation de départ. Dans les deux cas, dans la Drôme et dans le livre des Chroniques, nous retrouvons la même situation de départ. On voit des gens qui possédaient une connaissance théorique de Dieu. Les temples étaient là, les églises étaient construites, mais un peu en ruine. Il y a eu un passé glorieux, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Les gens avaient certainement une vague idée de Dieu. Si on leur parlait du Dieu de la Bible, ils savaient répondre à plein de questions, certainement. Mais la foi vivante était passée. Dieu n'était qu'un souvenir lointain, une préoccupation ancienne. Ça allait bien pour nos parents, mais pour nous. La situation de départ est la même. Les gens ne sont plus consacrés à Dieu. Il y a peut-être une certaine lassitude dans la pratique de la foi. Et cette situation de départ nous amène au deuxième point, qui est un même constat. Un constat où des gens sont conscients de l'état de l'Église, et ils sont aussi conscients de la beauté qu'il y a de vivre une relation vivante avec Dieu. Les premiers pasteurs de la Drôme ont pleuré, ont prié sur leur église. Le roi Ézéchias a convoqué les Lévites qui étaient en charge du culte au temple. Ces personnes remarquent une vie spirituelle qui est morne, qui est déserte. Et par leur prière, par leur foi vivante, ils vont intercéder pour que la vie revienne, pour qu'il y ait un réveil. Et dans ces deux histoires, autant dans l'Israël du 8e siècle que dans la Drôme du 20e, Dieu a envoyé un réveil. Ce même constat, ce point de départ, c'est la reconnaissance de nos manquements, de nos failles. On ne peut pas avancer tout seul. Ce n'est pas une succession d'efforts qui vont amener un réveil. Le point de départ, c'est reconnaître nos manquements, de vivre une repentance sincère et de reconnaître nos faiblesses. Et de ces deux réveils, on peut tirer un même appel. Un même appel. Dans des cultures très différentes, dans des époques très différentes, dans un contexte géopolitique très différent, il y a un même appel. Cet appel reste le même. C'est une invitation à se consacrer pleinement à Dieu. Se consacrer pleinement à Dieu, ça ne veut pas dire juste donner sa vie à Dieu et de réciter une prière de conversion. Se consacrer pleinement à Dieu demande une implication quotidienne. Et en théologie, on utilise le mot barbare de sanctification. Être chrétien, c'est une chose, mais vivre en chrétien, c'en est une autre. Ces deux réveils nous offrent le même appel, de se consacrer pleinement à Dieu. Alors une question légitime qu'on peut se poser, c'est mais s'ils avaient tous ces ingrédients, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce qu'on en est arrivé à une vie spirituelle si triste? Nous l'avons lu dans le livre des Chroniques. Le peuple a abandonné Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils se sont détournés du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Je crois que la situation était aussi similaire dans la Drôme. Un abandon progressif de Dieu. Malgré les temples qui étaient là, malgré le souvenir, les Israélites et les habitants de la Drôme ont réussi à oublier Dieu. Et permettez-moi de suggérer que l'histoire peut se répéter. Nous ne sommes pas non plus épargnés par le fait d'oublier Dieu. Et je crois que c'est l'ambition même de Satan, que nous oublions Dieu. Pas que nous oublions nos églises, pas que nous oublions le souvenir de ce que Dieu a fait, mais que nous oublions Dieu lui-même. J'ose croire que le projet de Satan, c'est de nous faire mariner dans un souvenir qui est bien, d'avoir une petite, de ne pas faire oublier complètement qui est Dieu, d'avoir une petite conscience de voilà, Dieu existe, mais de nous détourner d'une foi vivante. Et de nos jours, la littérature chrétienne foisonne. Les enseignements bibliques se trouvent en abondance sur Internet. Ce qui est bien, c'est que ce n'est plus le pasteur qui a le monopole de l'enseignement. Mais toute cette abondance peut peut-être aussi nous mener à oublier Dieu. On a tendance à se nourrir, à prendre plein de choses. Et cela, ça a été un piège pour moi dans mes études de théologie. J'appréciais connaître Dieu, j'appréciais apprendre des choses. Lire des livres sur Dieu. Mais j'ai réalisé que ma foi était aussi très sèche. Et ce n'est pas le fait de connaître des choses sur Dieu qui me font vivre une foi vivante. Se consacrer à Dieu, ce n'est pas lire des bouquins de théologie uniquement, d'accéder à une connaissance purement intellectuelle, mais il y a un vécu devant. Alors de ces deux réveils, quel appel il y a pour nous? Cet appel à la sanctification, cet appel à vivre consacré à Dieu, non pas dans la connaissance intellectuelle ou dans le souvenir de ce que Dieu a fait, mais de nous mettre en mouvement pour avoir une foi vivante. Et la sanctification n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente parce qu'elle nous fait aller à contre-courant de la société. La sanctification s'inscrit sur le long terme, alors que la société nous propose des choses à court terme, des résultats à court terme. La sanctification demande de la persévérance, alors que notre société valorise ce qui s'obtient immédiatement. La sanctification demande parfois de renoncer à certaines choses, alors que la société valorise le plaisir temporaire et égoïste. Alors, quand on vit dans ce monde, on peut se dire en tant que chrétien, mais ça ne vaut pas la peine de vivre une sanctification. Quand je lis dans la Bible les standards que Dieu met, c'est tellement haut, c'est impossible. Et je suis d'accord avec vous. D'une part, c'est impossible, Dieu est tellement saint, Dieu est tellement parfait. Mais Dieu se réjouit aussi du moindre petit pas. On a souvent entendu l'adage « une fois sauvé, toujours sauvé ». C'est bien vrai. Mais peut-être que c'est réducteur. Et peut-être qu'il y a un piège là-dedans. On met des fois tellement l'accent sur le fait qu'on soit sauvé qu'on oublie que la conversion est un point de départ. La conversion n'est pas une arrivée, un aboutissement. La conversion est un point de départ qui nous permet de vivre une vie de sanctification. Et il n'y a rien besoin d'ajouter à l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Oui, quand nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Et on peut être sûr de ce point de départ. Parce que ce point de départ a été payé par Jésus-Christ, mort et ressuscité à la croix. Nous nous sommes souvenus avant, en prenant la scène. Il n'y a rien besoin d'ajouter à cette œuvre. Et parce qu'elle est solide, nous pouvons construire dessus. La conversion est un point de départ. Et dans les standards trop hauts, et c'est vrai que notre société nous donne aussi l'idée d'être parfait, d'être spécialiste. On entend souvent le mot spécialiste dans le milieu professionnel. Je ne crois pas que Dieu nous demande d'être des spécialistes de la sanctification. Je crois que Dieu se réjouit du moindre petit pas. Et ce réveil dans la Drôme, il y a 20 ans, a commencé avec ces paroles « Dieu ne se contente pas de ce que je suis. » Dieu ne se contente pas de ce que je suis. Je vous invite à retenir cette phrase, cette confession qui est le point de départ d'un grand réveil. Je vous invite à la méditer. Et dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite à demander à Dieu ce que peut-être les zones, vous avez peut-être encore besoin de progresser, les zones où on a peut-être encore besoin d'avancer, les zones où on a peut-être stagné et où Dieu veut nous emmener un peu plus loin. Je vous invite à cette réflexion. Dieu ne se contente pas de ce que je suis. Oui, Seigneur, tu ne te contentes pas de ce que nous sommes. Ton désir pour nous est de nous emmener un peu plus loin, dans la ressemblance à qui tu es. Et Seigneur, en disant cette phrase, tu ne nous regardes pas non plus d'un regard accusateur, avec une gonille autour du cou tel un juge, mais tu te réjouis du moindre petit pas. Seigneur, ce que tu nous demandes, c'est d'être authentique devant toi. Seigneur, les choses que tu nous as mises à cœur durant ce temps de silence, que nous puissions aller de l'avant. Non pas que ce soit une succession d'efforts intellectuels, mais Seigneur, que les zones d'ombre, les choses qui sont encore à régler dans nos vies, puissent être vécues avec ton esprit durant la semaine qui vient. Oui Seigneur, dans cette semaine, nous voulons aller avec cette phrase que tu ne te contentes pas de ce que nous sommes, mais aussi en sachant un regard bienveillant sur nous. Seigneur, merci parce qu'on peut aller de l'avant, parce que tu as payé le prix fort et tu assures notre salut. Alors c'est dans la joie que nous pouvons avancer. En ton nom Jésus. Amen.